RDS et Balco présente le petit paquet. Bienvenue à tous.
Petite voix rauque.
Une petite voix rauque, c'est ça. Ben moi, j'ai eu une semaine sans petit paquet. Fait que là, tu sais, il fallait que je me réactive, justement, les cordes vocales. Épisode qui s'est presque fait en compagnie de François.
Il était là, mais il n'est plus là.
Exactement. Donc, petit conflit d'horaire. On fait ce qu'on peut, mais je peux pas me plaindre. J'étais dans la même situation la semaine dernière. Donc, il a une excellente raison. C'est lui qui est pardonné dans ça parce que on a eu droit donc à un excellent gala de lutte professionnelle. La semaine dernière, deux excellents galas de lutte professionnelle. Mais évidemment, ce qui a attiré le plus l'attention, c'est le gala All Out de la All Elite Wrestling. Évidemment, une compagnie qui a le vent dans les voiles, beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette compagnie naissante. Et donc, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gala qui est proposé, je dirais pas qu'on l'attend avec une brique et un fanal, mais tu sais, on a toujours hâte de voir est-ce qu'ils vont capable de maintenir la qualité à laquelle ils nous ont habitués jusqu'à présent, et je pense qu'on peut dire que ça a été le cas.
À date, là, ils sont pas mal 3-3 au niveau des pay-per-view, le All Elite Wrestling. All Out est le deuxième à Chicago. Ils veulent établir la classique et la récurrence là, pendant la fin de semaine de la fête du travail. Ils vont être à Chicago au Sears Center. Ça va être leur home base un petit peu, vu que le premier All-In avant la naissance d'All Elite avait été présenté là. Donc là, on arrive avec All Out presque un an, jour pour jour, après le début de cette aventure-là. Puis il n'y a personne qui est ressorti de la soirée en disant que c'était une mauvaise soirée de lutte, à l'exception peut-être de la durée. Il y en a qui ont trouvé ça un petit peu long.
Ben c'est ça, c'est souvent une critique qu'on a par rapport au gala de la WWE. Être assis des 4-5 heures, ça finit par être taxant physiquement. Jusqu'à présent, je pense pas que les galas précédents de la All Elite avaient dépassé le 3 heures de lutte, mais là, on est allé à côté le 4. Là.
Ben, j'ai reculé, puis Double or Nothing était pas si court que ça. Non,
c'est vrai.
Parce que lui aussi avait commencé vers 19h30, puis c'était terminé après 23 heures.
Okay.
Donc, c'est juste que là, on dirait que la fatigue s'est fait sentir un petit peu plus, peut-être parce que le combat principal était plus lent. Et il y avait pas des moments creux sur la carte, mais c'était peut-être un petit peu moins enlevant que Double or Nothing. Donc,
c'est ça. C'était pas une constante progression.
Non,
il y avait des hauts et des bas. Ben, sans parler vraiment de bas, mais tu sais, justement, j'étais surpris de voir le match de Kenny Omega et de Pac aussitôt
dans la carte.
C'était peut-être le troisième, quatrième match environ. Match, en fait, à propos duquel, d'ailleurs, on entendait, en fait, récemment, je pense que c'était hier que Chris Jericho a fait un podcast avec lui-même, dans lequel il parlait justement de quelques anecdotes backstage de All Out, et semble-t-il que justement Pac et Kenny Omega étaient pas tout à fait satisfaits du match qu'ils ont livré, qui pourtant pour nous spectateurs était irréprochable. C'était précisément ce à quoi on était en droit de s'attendre, mais semble-t-il que bon, ils ont manqué un petit peu de temps, ils ont pas eu l'occasion de faire tout ce pour quoi ils s'étaient préparés. Mais si on laisse ça de côté quand même, tu sais, je veux dire, quand j'avais appris la nouvelle comme quoi Jon Moxley serait pas en mesure de participer à ce gala-là, je me suis, tu sais, ma réaction immédiate, c'est comme qu'est-ce qu'ils vont faire pour compenser cette perte de star power là. Pac était la personne toute désignée. La chimie entre lui et Omega était absolument sensationnelle, et ça a donné un match de lutte tout à fait spectaculaire.
Alors puis c'est comme peut-être le premier chapitre de quelque chose, parce que là t'as Pac Omega. Pac gagne à la surprise de plusieurs. Moi, c'était mon combat de la soirée, honnêtement. J'ai aimé beaucoup d'autres choses sur la carte de All Out, mais le combat Pac Omega, c'était comme tout ce que je voulais que ça soit. Et le résultat me plaît aussi, parce que il y en a qui disent que ça nuit à Kenny Omega parce que là il est 1-2. Mais OK, oui, les fiches vont être importantes à All Elite Wrestling, mais si tu veux présenter Kenny Omega au public nord-américain qui le connaît moins, ceux qui sont pas familiers avec la New Japan, mais faut que tu le construises dans quelque part, faut que tu lui mettes un plancher pour qu'après il puisse monter. Et ça, tu sais, il arrivait un peu de la New Japan comme la deuxième incarnation du Christ. Il fallait que tu le redescendes un peu. Puis après ça, tu vas pouvoir remonter Kenny Omega et le reconstruire. Puis là, c'est la belle occasion. Pac arrive. Le rein inconscient, c'est même pas une soumission. Il
c'est
l'a
vrai.
Juste comme pass out Kenny Omega.
Mais le rein inconscient,
mais
il pine en même temps. Donc vraiment,
il y a
pas de doute sur cette victoire-là.
Non, puis le résultat, c'est comme, je pense que les gens ont juste été un peu bouche bée. Et le placement du combat a fait que après ça, le Cracker Barrel match avait le rôle ingrat de réveiller tout le monde, puis c'était exactement le bon combat pour réveiller tout le monde, parce que là, c'était juste comme, on va avoir du fun, on va faire des bumps. C'était comme, tu sais, il manquait juste des clowns puis des tartes, là, puis on avait le cirque au complet. Taloche le clown, viens-t'en.
Il se bat comme dans deux semaines, je pense, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvelle fédération de lutte qui va être mise en place.
FML,
c'est ça, on aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus en détail de ce gala-là au cours des prochains jours.
Tour, si je peux y aller, là, c'est un samedi, fait que ça se fait quand même bien, Montréal-Saint-Jean, donc... Gardez-moi une place.
Puis il y a une collaboration avec La Gabière, là, qui font de la Sapristi de bonnes boissons, donc la ta meilleure de La Gabière, là.
Oh,
gros coup de cœur.
Attention, on a de la pied.
Donc oui, ben en fait, aussi comme tu dis, moi je trouve que c'est la bonne décision de faire gagner PAC, faire perdre Kenny Omega. Je me souviens plus si c'était toi dans le fond la semaine dernière à l'émission qui disait que ça pourrait être une bonne idée justement de le faire accumuler les défaites, parce que je pense que Kenny Omega, oui, ça fait un bon babyface, mais je pense que ça peut faire un encore meilleur méchant. Puis donc pour qu'il deviennent méchants, ben, il faut que tu crées de la frustration sur ton personnage, donc de le faire perdre de façon pas systématique, mais assez récurrente comme ça, ben, ça pourrait lui donner justement une raison pour laquelle péter un câble puis devenir méchant.
Ouais, ça, moi, ben, je vais me paraphraser de la semaine passée. Moi, j'ai dit que Kenny Omega devait être l'antagoniste principal de la All Elite Wrestling.
Puis Cody serait peut-être le gentil principal.
Cody risque d'être un gros babyface, donc pour que Omega soit un antagoniste, ben faut que tu lui donnes justement une motivation. Puis là, il est comme trop populaire encore, il est trop over, il est trop content d'être là, trip ses jeux vidéo. Tu sais, il est comme, faut qu'il efface tout ça, et là tu pourras ramener. Tu sais, la montée d'Omega à la New Japan, là, on l'oublie, là, mais ça a eu un passage par le Bullet Club et la première
on
année
pas,
du Bullet. Ben c'est que la fin. C'était The Elite, c'était le Bullet Club, un peu gentil, cool. Mais la première année de Kenny Omega avec le Bullet Club, c'était le Cleaner.
Le Cleaner
était pas face du tout. Là. C'était l'homme de bras d'AJ Styles, puis il venait intervenir tout le temps. Puis c'est comme ça que Kenny Omega est devenu Kenny Omega. Puis je pense que tu peux rebrasser cette soupe-là sans refaire exactement la même chose. Je dis pas de partir un clan, puis des mythes. Mais tu pourrais avoir un Kenny Omega frustré de « Hey, moi, je suis au-dessus de tout ça, votre niaisage, là. » Puis c'est... Moi, je veux voir ça, parce que là, pour l'instant, il est comme un peu sur le pilote automatique. J'adore Kenny Omega, là, comme je veux pas dire que c'est mauvais ce qu'il fait, mais c'est un peu sur le cruise control.
Ouais, ben ça, il faut rebâtir quelque chose de nouveau. Puis aussi, c'est correct, étant donné qu'on sait que bon, les décisions créatives, ben il y a Cody qui est derrière ça, les Young Bucks, puis bon, Kenny Omega, il y a un titre de VP quelconque, là, en fait, ils en ont quasiment tout.
Ouais, c'est
donc c'est correct que, justement, les décideurs se fassent pas systématiquement gagné, autrement, ben, on pourrait se retrouver dans une situation un peu critiquable comme qui était celle de la WCW il y a une couple d'années.
C'est ça qui arrive. Puis je sais que les gars, ils sont divisés un peu le pouvoir. Tu sais, Kenny est beaucoup affilié avec la division féminine, par exemple. Ouais. Tu sais, comme, ils essayent, je pense, de pas trop overlapper avec leurs propres histoires.
C'est ça.
Mais encore là, tu sais, t'es un des cinq VP, même si t'as pas les mains d'un dossier. Il pourrait avoir un mauvais œil de là-dessus. Fait qu'à date, c'est quasiment un sans faute à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est leur fédération pour se mettre over,
c'est
mais
ça.
Plutôt on invite tout le monde qu'on aime, puis on essaie de, tu sais, même Cody qui gagne, Sean Spears a pas mal paru.
Ben
là,
non,
le but c'était pas de utiliser Sean Spears pour monter Cody. Là, c'était un barn buster, puis Sean Spears, à cette heure, les gens savent c'est qui.
On va le prendre au sérieux, ce qui était pas tout à fait le cas il y a deux mois, mais
ben non, pas du tout. Là, les gens qui écoutaient pas NXT, le Taya Dillinger, ça résonne pas du tout. Là, parce ça run à Superstar. T'es pas investi vraiment de l'avoir vu des house shows dans la première demi-heure. Là. Donc là, au moins, lui a quelque chose à se mettre sous la dent. Puis c'est ça un peu la force d'attraction des cinq têtes dirigeantes dans le lead, c'est de signer tout le monde qui aime. Puis des fois, ça marche pas, mais pour l'instant, ça marche. Et là, c'est ça, on en reparlait un peu tantôt, mais tu sais, on le voyait dans le gala. Je pense qu'il y a certains des actes des lutteurs qui aiment beaucoup que les gens sont pas prêts, on dirait. Je pense notamment à The Dark Order, qui sont nos boys, on les aime beaucoup, mais la réaction généralisée à date, c'est que tout le monde s'en fout.
Ouais.
Ben, ça, c'est plate un peu.
On y revient dans un instant. Un acte un peu bizarre, par exemple, pour lequel les gens semblent prêts, c'est Luchasaurus, par exemple,
bizarre,
qui sort de nulle part. Ce gars-là va être champion rapidement, j'ai bien l'impression. Là. Justement, il était comme nulle part, sur aucun radar. Et là, en l'espace de quelques matchs, avec une bonne gimmick, là aussi, il faut dire, une gimmick qui marque l'imaginaire. Puis en plus, son association avec Jungle Boy, qui arrive sur ses épaules, Boy and his Dinosaur, c'est merveilleux. Mais dans un ring, ce gars-là, il il réussit à se démarquer. Il y a comme un build qui évoque Kane quasiment, donc
c'est ça,
un géant athlétique et très agile aussi en même temps. Et puis, tu sais, je suis pas allé faire des recherches précises sur la biographie du gars derrière Luchasaurus, ouais. Mais bon, étant donné que AEW essaie d'avoir un espèce de feel un peu plus sport légitime, un peu comme la New Japan, ben il y avait, je pense que c'était la veille du pay-per-view, une espèce d'événement avec la pesée des lutteurs, puis des entrevues, puis le poids officiel de Luchasaurus, c'est 2 tonnes et une maîtrise. Donc je me dis, hey, ce gars-là, il a une maîtrise, on va l'encourager, c'est bien d'avoir un petit peu d'éducation supérieure dans les rangs de la lutte.
Non, puis c'est ça, Luchasaurus, c'est un heureux accident, parce que ceux qui suivent la scène indépendante l'ont déjà vu, tu sais, il a fait la PWG, me semble qu'il était à Lucha Underground, tu sais, mais jamais des rôles proéminents, parce que on dirait que son personnage était un frein. On l'a vu brièvement à Ring of Honor aussi, mais c'était comme, c'est un dude qui fait des flips avec un masque de dinosaure, tu sais, comme, t'avais aucun investissement, tandis que là, il a trouvé la bonne mini-formule avec Jungle Boy, puis c'est comme, à ta peur, là, les gens veulent aimer Jungle Boy, puis là, il est associé à Luchasaurus, puis ils sont capables de faire de la comédie, puis Marco Stunt aussi, qui est un nain, là, ça n'a pas de bon sens, qu'il est petit.
C'est ça, j'ai trouvé ça drôle.
Ça fonctionne tellement bien, là.
Justement, tu sais, ce qui pourrait être un frein à la carrière, si on veut, de Jungle Boy, c'est ses dimensions, là, surtout frères. À côté de Luchasaurus, mais là tu mets Marco Stunt à côté et c'est rendu Jungle Boy qui a l'air d'un géant, là. Donc
ben non, c'est ça.
Les deux ont à peu près la même carrure, si on veut, c'est juste que Marco Stunt est comme pas mal plus petit, doit faire 4 pieds 8 à peu près.
La même carrure, tu veux dire, ils ont pas de carrure,
la même construction physique, là, disons là ainsi. Mais en tout cas, un match bon, sans véritable conséquence, c'était juste pour faire plaisir au monde. Mais je tenais quand même à préciser que je vais, disons, être très attentif à la progression de Luchasaurus. Je trouve que ça risque d'être une révélation. Bon, tu parlais justement de Dark Order avec nos deux Québécois, Evil Uno et Stu Grayson. Même Jericho, dans son podcast, disait qu'il ne comprenait pas encore la gimmick ou l'intérêt derrière. J'espère que ça va finir par débloquer. Peut-être que justement, comme tu disais, la télévision va leur faire du bien.
J'espère que oui, parce que c'est que nous, on connaît l'évolution des Super Smash Bros. À pourquoi Evil Uno et Evil Uno, puis pourquoi Stu et Stu, mais là, t'arrives avec ça, puis c'est vrai qu'il y en a un qui a l'air d'un knock-off cheap de 300, puis l'autre d'un méchant générique d'un jeu vidéo. Là,
c'est ça.
Fait que, moi, être vierge de les avoir vus, je pourrais comprendre que tu comprends pas ce qui arrive. Mm-hmm. Pis,
avec les Creepers, comme ça qu'ils appellent
aussi,
les Creepers,
puis de les mettre contre les Best Friends, Chuck E. T. est super populaire.
Ouais.
Genre, le monde veut aimer Chuck E. T. puis Trent Barretta aussi, là, mais tu sais, c'est comme... Ouais, c'est pas leur avantage, mais là, au moins, ils font gagner, tu sais, ils poussent encore, mais on le sait que c'est parce que les Young Bucks adorent les affronter, fait que c'est comme vraiment partie de ça. Moi, j'ai hâte qu'ils leur laissent développer, puis je pense que ça serait peut-être à leur avantage de changer les trucs. Stu Grayson, c'est vrai que le outfit cadre peut-être pas.
Ouais.
Il fait des années qu'il fait ça. Pis
il n'y a pas l'air d'une équipe, en tout cas, quand
non,
tu le regardes à côté d'Evil Uno.
Puis c'est Stu Grayson, tout seul, fonctionne. Mais là, t'es comme, ouais, mais là, t'as Evil Uno, t'as les Creepers. Puis t'as genre, justement, le dieu grec en un loincloth, là, en français. C'est quoi, c'est du linceul ou je sais pas quoi, tu sais. Bref, tu sais, t'es comme, ouais, ajustez-vous. Au pire, fais juste enlever le côté spartiate, là. Puis juste des bobettes noires, à la limite. Parce que c'est ça, c'est que Stu détonne. Puis là, on dirait que le storytelling d'Evil Uno, les gens sont pas réceptifs parce que la foule était morte dans le combat. Donc c'est comme, c'est plate, on veut les aimer, c'est nos boys. Là. Mm-hmm. Je leur souhaite aucun malheur, mais ils ont vraiment besoin d'une bonne job de polissage, quitte à changer beaucoup de trucs dans la gimmick pour être moins, justement, on a généré des noms dans un simulateur de méchants.
Mais ils ont eu droit quand même à une promo, du moins que j'avais vu passer sur YouTube. Je sais pas, moi j'écoute pas les espèces de petits documentaires qu'ils mettent sur YouTube en prévision au pay-per-view. Est-ce qu'ils ont eu du temps d'antenne dans ça? Est-ce qu'on a parlé un petit peu d'eux?
Tout le monde a eu des petits segments dans ces affaires-là, mais il y en a tellement. C'était le Road to All Out, le Being the Elite, Being All Elite. Il y en a juste trop. Fouine au travers, tu vas en voir. Ils veulent les construire. Pour la télé, ça va être bon. Là, tu vas pouvoir les faire parler. Mais là, pour l'instant, la foule était morte. Mais ça nous a donné Orange Cassidy.
Oui, effectivement, qui a fait son apparition à la fin de ce match-là.
Orange Cassidy, très, très polarisant. Soit tu l'adores, soit tu le détestes.
Ouais, ouais. Mais ceux qui l'adorent, l'adorent avec une passion véhémente.
C'est que ça, puis ceux qui l'aiment pas vont dire, ouais, mais il fait rien. Ouais, mais c'est parce que ça fait 15 ans qu'il fait ça, qu'il est capable de rien faire, puis de te le vendre. Mais c'est quand tu le vois dans des combats plus longs, on vous l'a déjà dit, mais il faut que vous alliez voir lui contre David Starr, notamment. Ça se trouve sur YouTube.
Son match
après
5 contre...
minutes, il kick in. Puis c'est comme, OK, ben là, il lutte comme un débile.
Ah, oui, oui. Je l'ai jamais vu faire des vrais moves de lutte à part de K-pop.
Contre
les
David Starr, je pense que c'est de GCW, peut-être de l'année passée. Okay. C'est ça, le premier 5 minutes, c'est Orange Cassidy avec les mains dans les poches. Mm-hmm. Puis là, un moment donné, il stand puis il se met à faire du mat wrestling avec David Starr, qui est absolument hallucinant.
Okay, ouais.
Puis là, c'est comme, OK, il n'y a pas de bon sens. C'est un worker, là, il sait quoi faire. Orange Cassidy. Mm-hmm. Puis une fois de temps en temps, il va aller ponctuer avec une petite, un petit comedy spot. Mais dès qu'il kick in en mode lutte, là, t'es comme, oh, OK, il lutte. Là. C'est pas juste un spot. Là.
Mais on sent quand même que la AEW essaie d'offrir un produit qui met de l'avant plusieurs styles de lutte différents. Puis justement, je pense que ce qui semble être, du moins dans les derniers 6 mois, ou même la dernière année, le plus gros nom du comedy wrestling, ben, c'est Orange Cassidy. Quand on parle du kayfabe, de la suspension de l'incrédulité, par exemple, pour embarquer dans Orange Cassidy, faut que t'assumes. Là, faut que t'assumes que la lutte, c'est pas vrai. J'espère que je vais pas de gâcher la vie de personne qui nous écoute présentement. Là. Mais c'est ça. Le match qui m'a vraiment vendu à lui, c'était un match dans une espèce de gala extérieur contre Colt Cabana, dans lequel il y avait une bière qu'il fallait pas renverser. C'était absolument, absolument sensationnel. Donc, je vous souhaite des bonnes choses. Et donc, j'espère qu'il va y avoir des matchs et non pas juste des petites interventions comme ça.
C'est sûr que oui. Puis, de toute façon, c'est pas d'hier qu'il faut suspendre l'incrédulité. C'est comme The Undertaker à la base, là, c'était un dos qui ressuscite.
C'est sûr.
À un moment donné, faut en prendre pas à laisser, là, tu
Tu l'as évoqué tantôt au passage. Bon, le match qui a suivi Pac contre Kenny Omega, c'était le match hardcore de la soirée. On vient de parler de différents types de luttes. Ben Cracker là, ça Barrel. C'était pour le match Cracker Barrel, qui d'ailleurs est le traiteur officiel de AEW. C'est pour ça qu'on en entend autant parler. Mais en même temps, voir des barils de bois comme ça être utilisés dans un match hardcore, je me disais, ah tiens, c'est un accessoire novateur. Ben j'avais jamais vu ça dans un match du genre. Même si, bon, je l'avoue. Je suis pas le plus grand amateur de matchs hardcore. Même là, on s'en parlait avant l'émission, je disais, hey là, au début, t'as Jimmy Havoc qui prend sa taqueuse, il se taque dans le bras, moi je capotais. Vous faites, ben voyons, il n'y a pas de taque dans cette brocheuse-là. Comme ouais, c'était ça le truc derrière. Mais quand même, les punaises dans la bouche avec le tape, le skateboard avec des punaises. Quand même un match qui avait de quoi divertir.
C'était relativement safe, mais c'est ça. Les gars, ils ont donné beaucoup. Darby Allin n'a pas de sens. Comme, il va se lancer dans des choses qui brisent, puis on espère que lui ne brisera pas. Pour l'instant, ça va bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le clin d'œil à Jim Cornette. C'est comme, on va sortir une raquette dans le dessous du ring. Non, on fait pas
rien à faire avec ça.
Mais... merde, on fait d'autres choses. Non, les gars, ils ont eu... Puis, ils sont tellement over. Là. Joey Janela est tellement over. Alors qu'essentiellement, Joey Janela fait pas grand-chose. Il fait des bombes, il est over, puis il a réussi à devenir marchandisable avec ça.
Ouais.
C'est Joey Janela est fou. Donc, il fait des affaires folles. Mais en termes de bombes débiles, c'est pas ce combat-là qui nous a fait regarder au travers de nos doigts en se disant hey, « ils vont mourir ».
Non.
À part le bombe de Darby Allin sur les escaliers avec, justement, le Cracker Barrel.
Le baril, hein.
Tout le reste était comme assez standard. Puis oui, il y avait des trucs spectaculaires là, quand Janela a sauté sur Havoc qui était assis sur la chaise à l'extérieur. Comme faut que tu le prennes, faut que tu le fasses. C'est comme
il était assis sur la chaise et il y avait
des
punaises dans la bouche avec du tape. Là, ne négligeons pas cet aspect du spot. C'est Jimmy Havoc qui est sorti gagnant. Moi, je l'ai pas ben vu lutter dans d'autres fédérations, mais je sais qu'il y a comme tendance à tout donner dans ces matchs.
Mais Jimmy Havoc. En fait, Jimmy Havoc, ce qui est le fun, c'est là, oui, ils penchent un petit peu dans le côté hardcore, mais pas trop. Jimmy Havoc est capable d'aller vraiment loin.
Puis dans les trois, c'est lui qui a peut-être la meilleure gimmick aussi.
Oui, puis c'est lui qui a le plus d'expérience. Puis ceux qui connaissent un peu Progress savent que le règne de champion du monde de Jimmy Havoc à Progress est une ride complètement folle. Il y a vraiment une belle histoire puis des combats assez rough. Il y a eu des deathmatchs à Progress où, tu sais, c'était pas un Crimson Mask, là, c'était comme un chest en sang à la fin. Puis les gars sont un peu whack, là, on va se le dire. Mais Jimmy Havoc, là, pour un public nord-américain, c'est correct qu'il descende d'une petite coche.
Ouais.
Puis qu'il joue plus le côté punk.
Gothique.
Ouais, c'est ça, que le côté je vais blader à outrance avec tout ce que je trouve. Mm-hmm. Puis moi, je l'aime beaucoup, le Jimmy Havoc. Fait que s'il peut avoir une belle run avec All Elite, tant mieux. Puis que ça soit quand même sécuritaire pour lui.
On va accélérer un petit peu parce qu'on veut parler de WWE un peu. Mais il y a quand même. On n'a pas encore abordé les incontournables dans le gala de AEW. Incontournable, le match, c'est quoi? C'est Rio contre Hikaru Shida. Je l'ai un peu contourné, je l'avoue.
Ouais.
J'ai regardé en accéléré. Mais
T'as peu, par contre, on parlait des femmes. Ouais. Moi aussi, je l'ai semi-regardé. Tant, je les connais pas beaucoup. C'est comme le Pet Project de Kenny Omega.
Ouais.
Je veux les découvrir, je veux apprendre à les connaître. J'ai hâte d'être exposé plus. Mm-hmm. Mais avant qu'on chiffre dans le gros du gala, on aurait dû souligner avant la gagnante de la bataille royale qui va être l'autre aspirante au titre féminin dans l'Elite Wrestling, Nia Rose. C'est la première lutteuse transgenre vraiment à avoir un exposure sur la scène nationale. Puis ça a fait un peu des remous. Là, le monde clamait qu'elle avait un avantage sur les autres.
Come on!
D'autres, c'est scripté, là!
La lutte.
OK, s'il y a bien une place où le fait d'être gay, lesbienne, transgenre, name it, change absolument rien à rien, c'est la lutte. Puis laissez-la avoir un spotlight, puis justement être un exemple positif. Mais en plus, elle a donné un bon... un Battle Royale, c'est un Battle Royale, là, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Qu'est-ce que c'est ça, ce controversé? Je comprenais juste pas. Ben voyons, là, on s'en torche.
Non, clairement.
Tellement. Mais là, elle va avoir le combat de championnat du monde contre... tu sais, vois-tu, j'ai oublié c'est qui l'autre aspirante.
C'est pas Rio. Ouais,
c'est Rio. Donc, tu sais, ils vont couronner une de ces deux-là. Puis là, j'ai hâte d'apprendre à les connaître plus. J'aurais pu faire un petit peu de recherche, là, mais je les connais pas beaucoup, malheureusement. Mais j'ai hâte d'être mieux exposé à tout ça.
Ben ça m'en faisait quand même beaucoup, surtout avec la bataille royale. Ouais, là, beaucoup de nouvelles lutteuses avec lesquelles se familiariser. Moi, il y en a une qui a marqué mon imaginaire plus que les autres. C'est, elle a l'air un peu plus vieille, une espèce de madame des années 80. Puis elle avait son flasque. Puis là, elle était dans le coin du ring. Puis là, elle buvait son flasque. Moi, j'ai fait, OK, c'est elle que je veux comme championne dans l'avenir. Ça se passera pas. Mais comme personnage, c'était winner. Donc, on l'a évoqué un peu au passage tout à l'heure, Cody contre Sean Spears, un match qui d'ailleurs avait été construit un peu lors d'un affrontement récent à Ottawa, à C4. T'avais un match TDT contre Cody et MJF, et au cours de ce match-là, ben, y a Sean Spears qui a fait une apparition surprise, donc on voit que c'est le fun, quand même une volonté de continuité, d'inclure tous les petits bookings parallèles dans l'histoire matrice de la AEW. Et tu disais que tantôt, Pac contre Kenny Omega, c'était peut-être ton match préféré. Moi, je dis que celui-là...
Il était bon. Oui.
J'ai quand même trouvé cool parce que une des critiques que je pourrais peut-être avoir jusqu'à présent par rapport à la majorité des matchs de la AEW, c'est que on est vraiment plus dans le spot fest que dans le storytelling. Et le match qui racontait une bonne histoire durant toute la soirée, ben c'était celui-là, Cody contre Sean Spears. Jamais j'aurais cru être autant intéressé par un match impliquant anciennement Ty Dillinger, mais je trouve que ça a été très bien fait ça. Il y avait vraiment un côté vintage à ce match-là, non seulement à cause de la présence de Tully Blanchard, et comme tu l'avais calé la semaine passée, donc Arn Anderson, quelqu'un sur Facebook a dit, ah, c'est le Hawk qui avait calé Arn Anderson. Non, donnez pas de mérite à François là, quand il n'y en a pas là. C'est Stéphane qui avait fait ce call-là, et donc on commence avec un brawl à l'extérieur du ring, on va un petit peu dans le public, donc moi vraiment j'ai beaucoup apprécié.
C'est comme la deuxième fois, le Cody qui est le représentant des années 80, son combat contre Dustin, c'était straight up du territorial des années 80. Là, la même chose, on ressort les mêmes codes, ça, c'est correct.
Des coups de ceinture. Il semble aussi avec quelque chose qui fait comme années 80. C'est des coups de ceinture.
Puis Tully Blanchard sort une vraie ceinture. Ça fait pas moins mal. Cette ceinture en cuir, je vais t'en donner un bon swing dans le dos. Tu vas rester bête. Tully Blanchard va être un solide gérant. J'espère qu'ils vont continuer cette ligne-là.
J'avais un peu peur. Des mini-bumps aussi. Là,
mais non seulement les bumps, souvent quand tu perds le micro, tu le perds de façon spectaculaire, là, comme c'est une chute, c'est Hulk Hogan, c'est une vraie honte. Là. Mais Tully Blanchard est encore allumé, connaît la business, a un instinct, puis c'est comme, OK, ça va peut-être aider Sean Spears, que c'est pas sa force, puis que le monde connaisse pas beaucoup. Fait que là, si tu peux rallier tout le Midwest avec Tully Blanchard, en méchant, évidemment, hey, c'était bon, là. Puis, tu sais, ouais. ils ont rien fait de spectaculaire. Là. C'était juste une belle histoire bien racontée.
C'est ça, exact.
On étire le heel turn inévitable de MJF. Mm-hmm. Arn Anderson vient faire son spot.
J'ai pas trop compris les habits de Star Trek, là, par exemple, dans l'équipe de Cody, mais bon, pourquoi pas. C'est bizarre, un habit de Star Trek avec son espèce de... avec le foulard de MJF par-dessus.
Ouais, puis DDP, même s'il est en shape, a toujours l'air un peu weird, comme... Ouais. T'es-tu comme mon mononcle, petit galop, qui s'est mis un chandail serré? Je le trosse pas. Ça doit être sa gimmick de stalker, bref, dans le temps de la E, là, qui m'a fait que je ne trosse plus DDP, là, mais je le vois.
Il est gâché comme... pour toi.
Il fit pas. Puis pauvre chien qui a eu peur des feux d'artifice.
Oui, je voulais rien savoir d'entrer sur la rampe.
Faites attention aux animaux dans les galas live. Il peut arriver des bad luck, mais sinon Cody, c'est encore un sans-fond.
Uh-huh. Et sinon, le match qui a marqué l'imaginaire, les Lucha Bros contre les Young Bucks. Je parlais de Spotfest, ça, ben, ça en était un. Il n'y avait pas d'histoire vraiment qui était racontée dans ce match-là, à part regarder à quel point on est spectaculaire dans un ring et à l'extérieur.
C'est pas d'accord. Pas d'histoire, non, parce que comme c'est la 75e fois qu'ils s'affrontent et qu'on en a vu beaucoup, il y avait beaucoup de callbacks et il y avait beaucoup de moments. Hey, OK, j'ai l'occasion d'aller aider mon bro, mais c'est plus important de faire mal à ton bro que, tu sais, fait que. T'avais des double spots en écho,
c'est vrai.
Souvent dans le combat, mais c'était toujours dans l'objectif du « on le sait qu'il faut absolument tout faire pour vous arrêter, fait que je prendrais même pas cette chance-là. Mon bro va être correct, mais le tien va avoir mal. » Puis tu sais, moi j'ai beaucoup aimé cette escalade-là de « ok, on fait des bombes, c'est sûr qu'on s'attendait à des spots de fou, mais on va juste monter à bord tout un peu plus haut. » Le Canadian Destroyer de Pentagon, ça se prend pas. Là. Tu fais juste comme « ok, garde, t'espères juste que tu meurs pas. »
Ben, c'est ça, je me disais, j'essaie de me mettre dans la tête de ces gars-là pendant le match. Puis tu sais, il me fait pas avoir de moments où ils se disent bon, ok, le spot est fait là maintenant, ça peut être tranquille pour le reste du match. Non, c'était toujours de la surenchère par-dessus de la surenchère par-dessus de la surenchère. Et ça a mené à un moment qui m'a quand même surpris quand, bon là, j'avoue, là, j'ai comme jamais appris à distinguer les deux frères Jackson. Je sais pas lequel est Nick, lequel est Matt, là, mais un des deux finit par arracher le masque de Pentagon. Donc, tu sais, pourtant, les Young Bucks sont une équipe babyface depuis toujours, pratiquement. Et s'il y a bien un geste de méchant dans la lutte professionnelle, c'est enlever le masque d'un lutteur mexicain. Alors, tu sais, je me dis, bon, étant donné que c'est Pentagon Jr. et Phoenix qui ont gagné, ben ça faisait en sorte que peut-être qu'on mettait le public dans le dernier tiers du match du côté des Lucha Bros en rendant, bon, les Young Bucks un petit peu méprisables par ce geste impardonnable. Mais voilà, sinon... Sinon, j'avoue, j'en revenais pas, j'avais la gueule à terre. Comme à chaque fois que je vois ces lutteurs-là.
Je vais te donner un truc pour les Jackson. Matt, c'est le plus vieux.
Matt, c'est... Ben oui, mais le plus vieux, je sais.
Ben, puis Nick, c'est celui qui a le plus de calvitie, fait qu'il y cache avec son bandeau.
Okay. Ah, c'est ça qui se passe. Puis justement, dans l'émission de la semaine passée, t'avais dit peut-être que, bon, ça sera pas aussi spectaculaire qu'à l'habitude avec ces lutteurs-là, parce que Phoenix traîne une blessure à la patte. Je sais pas si c'est fait piquer avec quelque chose de mystérieux dans la jambe, là, mais ça a pas paru une seconde.
C'est l'adrénaline du tape kinétique, puis 3-4 Advil, on est parti. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu parlais du unmasking de Pentagon. Ça aussi, c'était un callback parce que cet été au Mexique, on essaie justement de déranger les Lucha Bros en enlevant le masque de Pentagon. Puis, il se sort lui-même du combat pour aller remettre son masque. C'est une façon de se donner une chance de les battre parce que au Mexique, ils sont imbattables. Phoenix est champion du monde, puis les Lucha Bros cassent tout. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'était un beau callback. Le seul moment où j'ai vraiment comme eu peur, les dieux de la lutte ont été cléments. Là. Nick a vraiment mal pris son dernier bump
sur
de
le
table.
Côté dans la table.
Il était trop loin. Il est tombé. Il est tête première. Ça aurait vraiment pu mal virer. Heureusement, il était correct. Mais tu sais, après ça, Matt est allé prendre un gros bump sur une table. Un package pile driver sur une échelle mis en équilibre. Oui. C'est comme, come on!
Ça n'arrêtait pas.
Mais ça pour dire que les Lucha Bros ont gardé leur ceinture de la AAA et ça va être la dernière fois qu'on voit les ceintures de AAA. Le All Elite va avoir des championnats par équipe à la télé. Le tournoi va être en branle, donc on n'aura pas d'autres. C'est que ça leur prenait un prétexte pour avoir des échelles. Mm-hmm. Donc, les ceintures de la AAA. Puis, je serais pas surpris que autant les Bucks que les Lucha Bros soient pas impliqués dans la scène par équipe au début. Ils ont vraiment construit plein d'équipes pour le tournoi. Moi, j'ai le feeling que Pentagon, on va essayer de le mettre tout seul. Okay. Puis les Bucks vont peut-être juste graviter ailleurs. Tu sais, ils vont être là un peu. Ils vont clairement, ils vont posséder cette ceinture-là éventuellement. Mais je pense qu'au début, ils vont essayer de la donner à une autre équipe, justement, pour montrer que, tu sais, il y a eu, quoi, 3 matchs par équipe sur la carte. C'est comme, veut construire vers l'avant, puis ça serait une bonne chose de, justement, pas trop dire, hey, donne ça au box, ils vont nous donner un show à chaque fois, ou donne ça au Lucha Bros, c'est l'équipe la plus hot en Amérique.
C'est comme, ça.
Non, justement, faites autre chose. Puis Pentagon, tout seul, on l'a vu contre Kenny Omega, là, oui, Dabouzin, autant que t'en veux, Pentagon, je m'étonnerai jamais.
Je sais que c'est le plus vieux des frères mexicains, mais as-tu une idée de son âge à Pentagon? Es-tu comme quand même début trentaine ou plus fin trentaine, puis il en reste pas tant?
Sans recherche, de même, j'irais autour de mi-trentaine, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il est là, peut-être plus fin trentaine, parce que des fois, les lutteurs mexicains, ils pop plus tard sur la scène. Donc, on les découvre à leur mi-trentaine. Pis,
34.
Okay, ouais. Bon, tu es encore plus jeune que je pensais. Puis, c'est ça. Il y a ça dans le sang, Pentagon. Donc, en plus, là, si on commence à jouer avec son masque et tout, c'est qu'on va commencer à lui donner plus de stock. Donc, il va être un gros morceau de l'art, l'élite.
Et là, ben, pour le dernier match, je vais sortir A Little Bit of the Bubbly. Parce que, donc, on a couronné Chris Jericho comme premier champion de la AEW. Et là, ça a entraîné une espèce de situation imprévue au cours des derniers jours. Donc, dans ses célébrations, en fait, après le match, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est allé au restaurant, il a pris la mauvaise ceinture, il est revenu pour prendre sa ceinture. Non, il a pris la mauvaise valise, Le chauffeur de limousine est retourné à l'aéroport prendre la valise, en fait de même, puis la ceinture n'était plus dans les bagages de Chris Jericho. Donc, on met la police sur le coup. Tu sais, quand tu vois cette nouvelle-là sortir, tu te dis, ben, c'est de la lutte. C'est un work, cela dit. Quand tu vois le département de police de Tallahassee, je pense que c'était ça, qui embarque dans ça, qui partage sur leur Twitter, donc l'avis de recherche du championnat. C'est comme, OK, c'est pas une histoire à compter. Il a véritablement perdu le championnat.
Ils ont déclaré un vol, là, puis c'est comme, ils l'ont worké, ces médias sociaux. C'est arrivé pour vrai. La ceinture est revenue. Puis c'est comme, c'est un peu vraiment mêlant. Dans le fond, ça va devenir une anecdote de, bon, ben, c'est arrivé, tout s'est bien terminé, fait qu'on peut jouer avec ça. Cas échéant qui aurait perdu la ceinture, ça aurait coûté un petit chèque pour la remplacer.
Ben, c'est ça. Agréable. Donc, tu sais, la valeur officielle qu'on voyait circuler, c'est 30 000 $. On dirait, dans ma tête, là, c'était comme 500$ une ceinture de même, c'était faite comme en plastique. Mais
surtout celle de la All Elite est très, 30 000, je trouve que c'était un peu gros, là, mais j'aurais pas de misère à croire que c'est dans les 5 chiffres. Là.
Ouais.
Parce que il y a du craftsmanship, de la main-d'œuvre, whatever.
De l'artisanat.
De l'artisanat là, derrière tout ça, puis elle est quand même massive. Je pense qu'il y a une coupe de pierres précieuses dessus en plus. Fait que c'est comme, gâtez-vous la ceinture. Mais tu sais, on en parlait la semaine passée avec Frank quand on a fait l'avant-goût de All Out. Moi, Jericho, je trouvais que c'était la bonne façon de lancer tout ça, si c'était, c'est le vieux, on donne une ceinture à vieux. Non, c'est qu'il faut que tu donnes de quoi à faire à Hangman Page. Si tu couronnes Hangman Page tout de suite, il se passe quoi après? Il a déjà conquéri l'univers de la All Elite. Ben, il irait juste à descendre. Tandis que là, tu le descends d'une petite coche. Puis, tu sais, on parlait tantôt de Cody avec Sean Spears, que c'était très vintage dans la façon de raconter des histoires. Dusty Rhodes, là, ça a pris du temps en 6 boulots avant qu'il soit champion du monde puis qu'il finisse par battre Ric Flair. Là. Donc, tu peux avoir ton gentil qui manque son coup, qui manque son coup, qui manque son coup, qui manque son coup. Puis, à un moment donné, quand ça va arriver pour de vrai, ben Adam Page va être un made man là, parce qu'il va avoir finalement mis la main sur sa ceinture.
Puis pour donner la crédibilité à ce championnat-là, ben Chris Jericho était la bonne personne. T'sais, je veux dire, oui, il est vieillissant, il approche de la cinquantaine, il est comme loin d'être dans son prime physique. Cela dit, on a juste à voir le travail de promo qu'il fait depuis 2-3 jours, depuis qu'il est champion. Déjà, on voit toute l'expérience que derrière lui, justement. Il y a déjà deux trois taglines qui fonctionnent. A little bit of the bubbly. Là, il se désigne lui-même comme étant le champion.
Il sort des affaires de son chapeau puis ça colle. Pis ben voyons, écoute.
Il va dans le territoire de Ric Flair un petit peu, photo avec le jet privé. Donc, fait ses promos dans son spa avec du champagne. Il parle qu'il est dans son manoir, dans son estate. Encore une fois, Chris Jericho, on l'a mentionné plusieurs fois, mais il sait se réinventer. Puis c'est encore une facette de Chris Jericho à laquelle on n'avait pas nécessairement été en contact jusqu'à présent.
Puis en plus, All Elite vont le savoir. Jericho ne luttera pas à la télé. Là. Ce championnat-là va être défendu dans les pay-per-view seulement. Puis, il va falloir que tu ailles courir après Jericho. Fait que pour lui, son implication, c'est justement faire une couple de promos, être présent, quelques combats dans l'année. Il sait qu'il peut runner encore 2 ans comme ça. Donc, c'est parfait pour tout le monde. Ça donne un momentum. Ça va donner un enjeu clair. Aller détrôner ce maudit Chris Jericho-là qui nous pourrit la vie. Le monde qui critique parce que c'est the same old shit. Ben non, c'est pas Hulk Hogan pour la 82e fois. C'est comme, fallait que t'en couronnes un, puis tu prends le vieux playbook de couronner le méchant, puis il faut sortir les guillemets. Là. Jericho est pas méchant, il est juste Chris Jericho. Uh-huh. Ça fait 30 ans, je fais ça, hey boys, checkez-moi aller. Là. C'est, il est pas heel. Il fait juste rentrer puis dire des affaires comme « Je vous donne la crédibilité, vous êtes des nobody, donnez-moi cette ceinture-là, on va s'arranger mm-hmm. après. Mm-hmm. » Adam Page, il va juste être gagnant, mais dans 6 mois, dans c'est un ça. An, puis c'est correct de prenez le temps de le consommer, mm-hmm. tout ça. Moi, je trouve que c'est du très bon storytelling. Puis le combat, il y en a qui... Tu sais, oui, c'était lent. Oui, c'était pas aussi spectaculaire que le match d'échelle avant. Moi, j'ai trouvé ça bien correct comme main event. Là. Je m'attendais pas non plus à être sur le cul. Là. C'est Chris Jericho. Il a de la misère mm-hmm. à marcher par bout. Là. Fait que... Gérer vos attentes un peu. Là.
Je m'attendais juste pas à voir, mettons, Adam Page, c'est pas un lutteur que j'ai vu très, très souvent se battre mm-hmm. auparavant, mais j'avais l'impression qu'il y avait un moveset avec un petit peu plus de profondeur. Je sais pas si c'est juste dans la préparation du match, mais de le voir faire comme 3-4 fois son buckshot lariat, je suis comme, pourquoi tu vas toujours reprendre les mêmes moves? Là? Si là il avait joué là, à WWE, touqué quelque chose au jeu vidéo, là, il aurait perdu des points en refaisant les mêmes prises tout le temps. Ça prend de la variété. Puis il m'apparaît comme étant un travailleur avec justement déjà de je dirais pas nécessairement tant d'expérience, mais qui aime ça aller dans plusieurs directions. Puis là, je trouvais qu'il stagnait un petit peu dans sa construction.
Page, ça lui prend un bon partenaire de danse. Puis Jericho... Ouais. Tout le monde, tu sais, on l'aime beaucoup, sa run de fin de carrière, mais c'est pas le Jericho de 99, là. Mm-hmm. Il peut pas en donner autant qu'avant. Il va donner beaucoup de psychologie, beaucoup, justement, des one-liners pis tout ça. Mais dans le ring, il va te donner ce qu'il va te donner. Puis mm-hmm. c'est ça. C'est un partenaire plus limité comme Page qui a encore beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un stallion. C'est vraiment le cas de le dire. C'est un jeune étalon qui va devenir de shit dans 5 ans. Mais pour l'instant, c'est ça. Il y a quelques bons... quelques bons moves à son répertoire. Là. Je suis bien en anglais aujourd'hui.
Écoute, il y a des journées de même.
Puis sinon, puis de toute façon, la télé va commencer en octobre. Là, il y a une vague de talents de la ROH que leur contrat finisse. Il y a des rumeurs de Matt Taven, il y a des rumeurs de Marty Skrull. Ça se pourrait qu'il y ait encore plus de monde qui débarque dans cette histoire-là.
Ben, Marty Skrull, ça semble sa place naturelle compte tenu de son affiliation passée avec justement Omega et compagnie. Là.
À moins d'un gros contrat, mais c'est celui en novembre, il va être libre comme l'air. Ouais. Ring of Honor, c'est plus difficile de ce temps-là. Mm-hmm. Donc, ils ont un gros pay-per-view à la fin du mois, puis personne n'en parle. Mm-hmm. C'est un peu triste. On la présente à RDS2. J'aime la Ring of Honor. J'aime beaucoup, beaucoup des lutteurs qui ont signé dans la dernière année. Ils sont très cool. Mais là, ils ont clairement la courte paille présentement. Mm-hmm. C'est comme, ouais.
Ben écoute, il n'y a pas une quantité infinie de spectateurs et de bons lutteurs. C'est ça, quand tu as un nouveau joueur avec autant de momentum qui arrive dans l'échiquier comme la AEW, c'est certain que ça va faire mal à d'autres.
Mais ça, c'est encore là, tu sais. C'est celui qui a été un non-facteur cette fin de semaine, CM Punk, a été à StarCast, a fait sa petite affaire, a fait des bye-bye, a donné son entrevue. Puis sur Twitter, il a comme fait, pourquoi c'est une guerre? Faites juste écouter toute la lutte, puis soyez content. Ouais, là, on dirait qu'il est en mode diplomate du... Je veux pas, tu sais, on dirait qu'il veut plus brûler de pont avec personne. Mm-hmm. Fait qu'il est juste comme, mais non, fait juste enjoyer toute la lutte puis consommez-en puis ayez du fun. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est ça l'approche. Oui, il va en avoir beaucoup. Lundi, mardi, lundi, mercredi, vendredi, les pay-per-view, les takeovers. OK, fine. Mm-hmm. Prends ce que t'as envie de prendre puis laisse-en de côté. Au pire, c'est pas grave, là. Mm-hmm. Comme, skip 3 Raw, regarde NXT.
Et écoute le petit paquet pour compenser.
Écoute le petit paquet, on va tout te résumer ça. Maintenant, fais un blitz à New Japan, les Destructions s'en viennent. Tu vas à New Japan, tu reviens après, tu vas voir un show à Montréal parce que c'est à côté de chez vous. Il n'y en a jamais trop de là.
Ouais.
C'est la vie extérieure.
La vie, la lutte, c'est la vie.
Ben oui.
Donc voilà pour AEW. Félicitations. Très beau gala. On vous promet. On arrive à Raw et SmackDown.
On va parler de la WWE.
Il y a une autre parenthèse qu'il faut faire avant. On va se concentrer sur un match. C'était NXT Takeover Cardiff. Ouais, NXT UK. En après-midi. Donc, j'avoue, moi, j'ai pas eu l'occasion de regarder ce gala-là. Cela dit, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme par rapport à l'affrontement principal, c'est-à-dire celui opposant Tyler Bate à Walter. Donc, toi, tu as eu l'occasion. Quelques mots sur ça?
Écoute, quelques mots, là, c'est le combat de l'année à WWE.
À ce point-là?
C'était long, c'était bon. Cardiff, en général, si vous avez un 2h30, allez vous taper la carte au complet. C'est de la bonne petite lutte, assez oubliable dans l'ensemble. Mais moi, j'ai eu un bon moment. Je l'ai écouté en direct à peu près au complet, là, à part les premiers combats que je suis revenu. Mais moi, je voulais vraiment, vraiment, vraiment voir Bates contre Walter parce que je l'avais vu à Progress. Je savais ce qu'ils pouvaient nous donner. Puis, ils sont allés encore... Hey, ils ont donné quasiment 45 minutes. Là.
45? Okay,
c'était tellement long, mais c'était Tyler Bate a été underdog, dominant, underdog, dominant. Mm-hmm. Puis tout le long du combat, Valter était juste comme, non, à ta peu, je vais te gérer. Mm. Valter est un talent rare, là. Tu sais, il y en a qui comprennent pas, qui apprécient pas. Parce que il est pas flashy, là. C'est un gars qui a pas de shape. Il a l'air d'un gros tas de plasticine avec des bobettes.
Mais il a l'air de Dominique Mysterio.
Il a l'air de Dominique Mysterio qui aurait pris beaucoup de mets mexicains gras et frits. Mais il gère le combat. Puis là, on lui donne Tyler Bate, qui était l'underdog de luxe. Il l'a choppé jusqu'à la fin des temps. Tu sais, les chops qu'il avait donné à PCO, là, il y a un an et demi. Mm-hmm. C'était la même chose à Bate. Bate est sorti de là, là, épuisé, a tout donné et a quand même perdu. Donc, Valter reste invaincu à NXT UK. Mais Tyler Bate, là, c'est comme, wow! Tu sais, c'est Rocky qui perd contre Apollo parce que il perd la décision à la fin du 15e, mais tout le monde est comme, oh shit, c'était Rocky, ça. Tyler Bate avait cette vibe-là. Après, on le connaissait déjà. C'est le premier champion UK. Tu sais, c'est pas un inconnu. Voilà. Mais là, il a sorti un classique que si les gens ne l'avaient pas vu sur la scène indépendante, tu sais, probablement que la foule britannique connaissait le travail à Progress, mais les Jobins du Network, là, ils savaient pas c'était quoi un combat de Tyler Bate, là, bien échevelé.
Ben, comme, on avait eu droit il y a quoi, 2 ans maintenant, c'était dans le cadre d'un gala, d'un takeover de NXT. Ça avait été aussi le match de l'année cette fois-là. C'était Tyler Bate contre Pete Dunne. Ouais. Donc, il n'y en est pas à son premier match impressionnant.
Mais ça, quand ils travaillent ensemble, les Britanniques, ils se connaissent super bien. Valter n'est pas britannique, mais il a travaillé sur cette scène-là. L'Autriche, c'est à côté. Dans les yeux.
C'est ça, c'est ça.
Mais honnêtement, Valter, là, si vous n'êtes pas embarqué encore dans le train, Valter, embarquez dans le train.
Il n'est pas trop tard.
Ça n'a pas de bon sens. Puis si vous voulez un mini-liner de Cardiff, Cesaro est allé lutter contre Ilya Dragunov.
OK, oui.
Ilya Dragunov, là, c'est la chose la plus fun au monde.
Ah ouais.
Il est comme un peu moins intense depuis qu'il était à NXT. On dirait que les gens, les foules sont plus tranquilles. Mais quand Dragunov embarque en quelque part, c'est comme tabarnak. On dirait que c'est shooté de la, genre du PCP dans les yeux. Puis il est comme enligné, là. Puis là, il a lutté contre. Cesaro a juste donné une clinique de lutte à un kid, genre un bulldog enragé qui fonçait dessus, là. Puis waouh, je savais pas que je voulais voir ça. Puis là, j'ai vu ça. Puis j'ai fait, je peux-tu le revoir, s'il vous plaît, c'est le fun. Donc, allez écouter ces deux trucs-là. Si vous avez le temps, regardez la carte au complet. Puis NXT UK va avoir une belle run. Ils ont enregistré leurs émissions. Puis. Jetez un coup d'œil, c'est pas l'émission de l'année, là, côté histoire et tout ça, mais il y a de la bonne petite lutte qui se donne là-bas.
Bon, là, on arrive à Raw et SmackDown. Donc, on va commencer avec l'évolution, en fait, de King of the Ring. Donc, c'est dans une semaine et demie, à peu près, qu'on aura droit à la finale dans le cadre de Clash of Champions. Donc, là, c'était les quarts de finale cette semaine. Mettons, commençons avec du côté de Raw. On a eu droit à, c'était quoi? C'était Baron Corbin contre Cedric Alexander. Oui. Donc, Baron Corbin.
C'était le roi
qu'on annonçait nous-mêmes. Donc, il continue cette trajectoire-là. C'était pas un match particulièrement mémorable. Tu sais, on a cru bon juste avant le match faire en sorte que le OC attaque Cedric Alexander pour lui donner une raison de perdre. Et donc, c'est quand même une bonne idée dans la mesure où ça le protège quand même. Parce que bon, on peut pas nier qu'il y a un push là, pour Cedric Alexander depuis quelques semaines. Il a quand même bien paru dans le combat, mais Baron Corbin étant Baron Corbin, et il passe à l'étape suivante. Et quelque chose de plus surprenant, si on veut, dans un tournoi du genre, il y a dans l'affrontement Ricochet contre Samoa Joe, pas de gagnant, donc délimité décidé de façon claire. Les deux avaient les épaules à terre, les deux avaient le bras par-dessus l'autre, et ça va faire en sorte qu'en demi-finale la semaine prochaine, on aura droit à un triple threat. Donc pour ceci.
Je suis comme content du résultat, mais je suis pas content de la façon d'arriver aux résultats.
C'est vrai?
Je trouve ça correct. La foule a détesté le finish.
Ouais.
Puis c'était comme... Honnêtement, je pense que j'aurais quasiment mieux aimé un bye pour Baron Corbin. Puis juste comme, envoie la finale.
OK, ouais, OK. Tant
qu'à faire exploser la foule, envoie-les direct à la finale.
Ouais.
Puis gère avec ce qui va arriver. Mm-hmm. Je pense que le but, c'est de protéger un peu Ricochet, là, de pas trop le faire perdre souvent. Même s'il a perdu 42 fois contre AJ Styles dans le dernier mois et demi. Ça, c'est comme, on parle des deux côtés de la bouche en même temps. Là, WWE, c'est assez classique. Donc là, on se commence avec un three-way. C'était honnête. Regarde, tant qu'il y a des enjeux, ça reste intéressant.
Mm-hmm.
je trouve déjà que ça s'essouffle, le King of the Ring. Je pense que j'étais plus dedans la première semaine, puis là, c'est comme...
Sais-tu, moi, je suis quand même enthousiaste par rapport à King of the Ring, dans mesure où une des critiques qu'on a souvent formulées dans le cadre de cette émission-ci par rapport à WWE, c'est qu'il y avait de la difficulté à créer des nouvelles vedettes. C'est toujours les mêmes qu'on voyait, et depuis le début de ce tournoi-là, j'ai pas l'impression que c'est les main eventers qui sont mis à l'avant-plan, les main eventers, disons, plus classiques, mais c'est un show de mid-card. Et donc, tu donnes l'occasion à tes mid-carders habituels. Pensons à Chad Gable, notamment, qu'on n'avait pas vu. C'était même plus un mid-carder, c'était un low-carder. On ne le voyait plus nulle part. Et là, de façon presque magique, en deux semaines, il redevient donc un lutteur crédible. Ça avait été, Buddy Murphy, c'est pas rendu loin, mais quand même, ça nous rappelle qu'il est bon. Ali, ça nous rappelle qu'il est bon. Mm-hmm. Donc, je trouve ça le fun parce que ça nous donne justement des émissions hebdomadaires depuis quelques semaines qui sont différentes de ce à quoi on avait été habitué au cours des derniers mois.
Ouais, je trouve ça le fun, sauf que si l'histoire est garante de ce qui va arriver. Ouais. Quand le King of the Ring était peuplé de mid-carders, c'est parce que le King of the Ring avait aucun espèce d'impact sur rien. Mm-hmm. Pensons à King Barrett.
Ouais, c'est ça.
Pensons à... C'est que l'autre d'avant, c'était Sheamus, qui n'a pas fait grand-chose avec ça. Donc, tu sais, quand ils ont commencé à se désintéresser du King of the Ring, Booker T, c'était pas supposé lever tant que ça. Finalement, lui, il en a fait de quoi? C'est parce que c'est rendu du remplissage dans leur tête à eux.
Ben, c'est peut-être pour là, ça c'est que... comme... C'est peut-être pour ça que Baron Corbin, on croit tellement en ses chances de gagner, parce que dans ceux qui restent, c'est pas mal le seul main eventer, qu'on le veuille ou pas. Là, Baron Corbin, c'est un des top méchants. Puis, tu sais, on a souvent répété par rapport à lui que oui, il y avait du heat négatif, mais hein, c'est peut-être du X-Pac heat. Le fait que les gens veulent pas le voir, moi, j'y crois de moins en moins. Baron Corbin a du vrai heat. Il fait une vraie bonne job de méchant. Je vais l'annoncer officiellement. Là. J'ai déjà laissé des indices poindre en ce sens. Là. Mais je vais arrêter de hater Baron Corbin juste pour le plaisir de dire « Ah, ce gars-là, il ne m'intéresse pas. » Non, je pense que c'est un bon travailleur.
Moi, je pense aussi qu'il a compris, il a appris quoi faire. T'sais, c'est qu'on l'a eu, justement, avec les cheveux longs puis le lone wolf, là, c'était laborieux. Mm-hmm. Puis, il apprenait, gars, faut que tu commences à quelque part. Puis, je pense qu'il a commencé à trouver.
Puis lui vient du football, il vient pas de la lutte depuis toujours, donc la courbe de progression était peut-être en accéléré en plus.
Puis lui, c'est un produit, il n'a appris que la WWE, il a jamais fait d'autre chose. Fait que tu sais, c'est pas un indie darling qui se conforme, c'est l'inverse. Il a été dans le moule dès le début, fait que c'était de l'essai-erreur. Là, depuis un an et demi, ok, on l'a eu, il est pas correct, mais... Y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire « Hey, c'est le mauvais choix de King of the Ring dans 6 mois, mettons, là? »
Non, c'est ça.
Mais non, il va avoir du heat. Mm-hmm. Il va être absolument imbuvable avec sa couronne et sa cape. Puis c'est correct, là, regarde. Tant mieux. Mm-hmm. Tout comme... Il peut ne même pas se rendre en finale, puis on va avoir un ricochet Chad Gable, puis ça va être un barnbuster au pay-per-view. Là. Comme les deux scénarios sont plausibles. Au moins, il y a ça. Il y a un suspense de savoir où ils vont aller avec tout ça.
Justement, du côté de SmackDown, bon, Chad Gable, qui avait gagné la semaine dernière contre Shelton Benjamin, a encore gagné cette semaine. Ça c'était une des décisions de booking qui m'a surpris, mais c'était bon. Puis, faut dire que la foule de SmackDown était hot. Là. Cette semaine, là, elle avait envie de voir un show de lutte, puis elle était vraiment très enthousiaste, très réactive. Et ce match-là, lorsqu'il est terminé, on a eu l'impression que Chad Gable était un made man, là, que ça y était. Il était rendu un incontournable dans la WWE. En même temps, c'est pas la première fois que ça arrive dans son cas, parce que c'est un lutteur quand même de très, très grand talent. Mais là, encore une fois, il nous l'a rappelé. Donc, son match contre Andrade, excellent. Je trouve que, tu sais, on insiste bien gros sur le fait qu'il est petit. Là, c'est comme sa nouvelle gimmick. Il est petit.
Ouais, non, c'est ça.
Soyez un petit peu plus imaginatif de grâce. Cela dit, ben, le fait qu'on insiste autant puis qu'on le peigne autant comme un underdog, ben, ça fait en sorte que je crois qu'il y a quand même une possibilité pour lui de se rendre loin. Ça m'étonne. Je trouve que dans tous les candidats qui restent, c'est peut-être celui qui fit le moins avec la gimmick de Roy.
Ouais, quand même.
Cela dit, au moins, le voir se rendre jusqu'en finale, ça pourrait être une bonne chose. Cela dit, il va rencontrer sur son chemin la semaine prochaine Elias. C'est aussi une décision de booking qui m'a surprise, entre Ali et Elias, de faire en sorte que Elias l'emporte. Oh well, bon, peut-être. Et là, ça met la possibilité qu'il risque pas vraiment de se passer, là, mais c'est un scénario apocalyptique que je lisais, que je voyais quelqu'un lire sur, écrire sur Reddit. Mettons que la finale, t'as Baron Corbin d'un bord, t'as Elias de l'autre bord, et là, il décide de faire en sorte qu'ils se battent pas pour le King of the Ring. Il laisse le titre à Shane McMahon, qui est le best king in the world. Oh my God. Là, ça serait catastrophique. Espérons que la WWE refuse d'aller dans cette direction-là, mais Écoute, ça serait quand même une possibilité, les connaissant, tu sais.
Moi, je pensais que t'allais dire que la finale du King of the Ring allait devenir un clusterfuck du 24-7.
Boy,
que tout le monde va juste se courir après comme des stooges, puis comme... Mais, tu sais, pire cauchemar ou pas, Chad Gable, c'est pas compliqué. Tu lui donnes 10 minutes à la TV, puis tu te souviens que c'était un bon lutteur.
C'est ça.
Moi, honnêtement, là, si je sors ma boule de cristal, là, la finale du King of the Ring, c'est Baron Corbin contre Chad Gable. Puis Samoa Joe puis Ricochet ont un autre match à Clash of Champions.
Ça serait pas fou, ça.
Hash it out. Donc, tu trouves une façon de que les deux se nuisent dans le three-way puis que Baron cheat out pour s'en sortir. Gable sort un super match avec Elias, puis Elias a fait son travail.
C'est ça.
Puis après ça, ben, t'as un Barn Buster, finally, puis Baron Corbin est le roi.
Ouais, parce que tu peux pas avoir à King of the Ring une finale heel contre heel. Là. Ça
non,
juste pas de sens.
Faut que tu t'aides un petit peu, puis ça te prend un bon worker. Gable est capable, puis tous les spots qu'il a fait Andrade, il peut les faire à Corbin aussi, donc on pourrait avoir de quoi de le fun. Je pensais vraiment qu'Andrade allait pogner la finale le côté de SmackDown, je suis un peu surpris du booking.
Mais regarde,
moi, Chad Gable, je vais toujours être content. S'il m'ordonne du Chad Gable, vous m'en regagnez toujours un petit peu, même si je sais que vous allez jamais rien faire avec, mais au moins, vous m'en donnez des petites doses une fois de temps en temps, puis j'aurai toujours le doux souvenir d'American Alpha quand il a gagné les titres à la NXT. Là,
donc... surtout qu'il a repris la chanson thème d'American Alpha qu'on avait un petit peu perdu au cours des dernières années. Il était temps.
Les cheveux, c'est bizarre, par exemple. Mais bon,
je trouve justement que ça lui donne encore un petit peu plus un look ticoune. On dirait que ça donne l'air plus petit qu'il est probablement en réalité. Donc, sinon, bon, on fera pas le tour de Raw et SmackDown, mais dans les moments clés des épisodes de cette semaine, Bayley qui revire sa veste de côté. Cela dit, lorsqu'elle fait son entrée au début de l'émission de mardi, elle a encore son thème très très joyeux avec les Bayley Buddies. Donc, c'est ça va être une transition, j'ai l'impression. Là, elle a fait comme en donnant des coups de chaise sur le dos de Becky, elle a fait comme, disons, l'image marquante là, qui dit OK, là maintenant ce n'est plus la Bayley qui est aussi gentille qu'auparavant, mais on voit que ça est pas encore est pas complètement dark side, est pas arrivé justement à bien en gothique là. Elle essaie elle-même de se convaincre en quelque sorte que elle est la gentille, parce qu'elle dit ben non, mais moi j'ai fait la chose à faire, ce qui est important pour moi c'est c'est d'être fidèle à mon ami Sasha Banks dans une situation difficile, donc je n'ai fait ça qu'au nom de l'amitié. Donc ça peut être quand même une ligne intéressante. Mais tant qu'à faire Bayley méchante, faut pas trop attendre avant d'y aller all-in avec elle, parce que sinon, tu sais, déjà que son personnage de gentil avait fait son temps un petit peu. Je pense que si tu veux sauver le personnage, ben il faut que tu t'assumes ce que tu essaies de faire maintenant avec elle.
Non, c'est ça. Je pense que c'est un slow burn, mais juste le temps de se rendre à Clash of Champions. Ouais. Je pense qu'on niaisera pas trop longtemps avec ça. Là. Mm-hmm. Les Four Horsewomen sont revenus au sommet.
C'est vrai.
C'est les quatre dans l'organigramme. Sasha Bayley d'un côté des méchantes, Charlotte Becky du côté des gentilles. C'est pas une mauvaise formule. C'est les quatre meilleurs de la compagnie. Fait travailler en ce sens. Tu sais, quand un heel turn est télégraphié, souvent on est comme « Ah, c'est moins bon. » Mais là, on dirait que la foule le voulait tellement. Elle avait la chaise dans les mains, puis t'attendais juste le moment. Ben, elle va swinguer, là, elle s'en vient. Là, comme,
c'est ça.
Elle va pas la déposer. C'est comme « Quand est-ce qu'elle va le swinguer? » Puis elle a envoyé un petit sourire à Sasha, puis la foule a juste
tout c'est ça.
OK, that's it. Fait que tu sais, c'est un heel turn que tout le monde a applaudi, mais c'est pas parce que le monde sont tannés de Becky. Là, c'était juste comme « On voulait que Bayley fasse de quoi d'autre que juste être Jobin avec des lulus, puis gentil, puis je fais des câlins aux enfants. » C'est comme « Tant mieux. Donnez-y du jus. Elle est capable de travailler. » Ils ont eu le dernier segment à Raw. Elle a eu le segment d'ouverture à SmackDown. C'est une belle façon aussi d'être moins redondant dans tes émissions. Tu sais, je dis pas que ça va être la nouvelle main event de SmackDown, mais une fois de temps en temps, t'as laissé fermer, t'as laissé ouvrir, pis c'est correct.
Puis tu dis, ça a été le dernier segment à Raw. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'était prévu comme ça, mais j'ai trouvé ça cool que, tu sais, elle a donné ses coups de chaise, et il y a pas eu 3 minutes après elle qui remonte sur la rampe pour faire comme, ben oui, je suis rendue méchante. Elle donne ses coups de chaise, pis l'émission finit comme 15 secondes après.
Le copyright a apparu, je pense, au premier coup de chaise, là.
C'est
comme,
ça.
Tant mieux, good. Finis ça de même, c'est un fret.
Ça me donne l'occasion d'être plus sous le choc, de moins digérer. Donc, bonne décision. Puis sinon, Eric Rowan, écoute, ouais, dans toute l'histoire là, de Roman Reigns contre Daniel Bryan, ben, force est d'admettre que le principal gagnant, du moins jusqu'à présent, c'est Eric Rowan qui se retrouve avec un match en solo contre probablement le principal visage de la compagnie, à Roman Reigns, donc un match à Clash of Champions. Et ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas entendu Eric Rowan parler? Est-ce qu'on l'avait déjà entendu dire plus qu'une phrase, tu sais, dans le temps de la famille Wyatt?
Les Chosen Brothers, ils faisaient juste dire des mots-clés, genre détruit!
C'est vrai, j'avais oublié ce
violence! Il y a ça qu'il disait.
mais sinon, il fait une promo qui était quand même tout à fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas brisé tout avec son charisme, mais il travaille avec ce qu'il y a. Puis j'ai trouvé ça le fun. Encore une fois, je disais tantôt qu'on a souvent critiqué le fait que la compagnie ne construisait pas de nouvelles vedettes. Lui, il a un physique que la WWE, de façon classique, apprécie, là, une espèce de géant qui a une présence intimidante. On lui donne de l'exposure. Semble-t-il, en plus, qu'Eric Rowan est très apprécié des milieux métal, parce qu'il porte toujours des t-shirts de groupes métal assez obscurs. Donc, peut-être que ça va ramener encore plus des fans de métal dans le géant de la WWE. Les métalleux contre-attaque, effectivement.
Puis là, sinon, c'est le méchant du mois pour Roman Reigns. Puis c'est correct. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Daniel Bryan, comment ils vont rebondir là dessus avec Daniel Bryan.
Est-ce que ça se pourrait que, dans le fond, Fox veut avoir Daniel Bryan face, veut avoir le Yes Chant, qui a été quelque chose de tellement populaire au cours des dernières années, ça serait le début du retour vers la lumière de Daniel Bryan?
Ça, je pense, c'est une possibilité. Tu pourrais ajuster l'environnement pour que ça soit plus l'antéchrist, mais juste comme, je suis consciencieux de mon environnement, mais je suis pas méchant pour autant.
C'est
pas des si gros changements que ça à faire. Uh-huh. Donc, Rowan est très, très pas fin. Sinon, on a aussi appris à Raw cette semaine que le prochain aspirant au championnat universel sera Bray Wyatt.
Ben oui, le Fiend!
Il prend le gagnant, Seth Rollins ou Braun Strowman, pas partant, on se voit à LNSL. J'ai donné de l'argent à Vince.
Ben oui, c'est
J'ai fait manger un bill, puis il m'a dit « C'est beau, vas-y, chum! »
C'est le fun de revoir un Firefly Funhouse. Ça faisait peut-être pas un mois, mais pas loin d'un mois qu'on n'avait pas eu.
Depuis son combat, me semble.
Puis à chaque nouvelle intervention de lui, ça me rappelle à quel point Bray Wyatt est c'est un bon travailleur dans le ring, mais comme esprit de promo, s'il est dans une classe à part, je pense même qu'il est meilleur que toutes les autres dans la compagnie entière, dans le développement de personnages. Tu sais, je peux pas croire que c'est juste des writers de WWE sans prendre, l'avis de Bray Wyatt qui lui propose ça. Ça vient de lui-même. Ça fait en sorte que, tu sais, rarement on est habitué dans le milieu de la lutte à avoir des personnages avec autant de couches, autant de complexité dans la psychologie. On n'arrête pas de nous répéter « Ah, Aleister Black, c'est le personnage le plus complexe! Son esprit est difficile à percer! » Ben, ça, justement, là, un des classiques, c'est « Show, don't tell » dans le storytelling. Ben, Aleister Black, on nous dit qu'il est complexe. Bray Wyatt, on nous montre qu'il est complexe et ça fait toute la différence.
Alors, Bray Wyatt joue aux échecs, le reste joue aux dames. C'est même pas comparable. C'est juste plate de le dire à chaque semaine. C'est la best affaire à Raw. Le Firefly Funhouse est écœurant. Surtout quand tu le mets en comparaison, il embarque dans le programme de Rollins puis Strowman, c'est épouvantable. L'espèce d'équipe dysfonctionnelle. Depuis le début, je trouvais que c'était une idée de merde.
C'est juste curieux.
Je
suis curieux de voir Clash of Champions quand même, le fait qu'ils défendent ensemble les ceintures par équipe, puis ensuite ils se battent l'un contre l'autre. Là.
Ça va être tout croche. C'est n'importe quoi.
Ouais. Ben, regarde, moi, je continue d'être peut-être naïf, mais d'avoir espoir. Sinon, j'aurais abandonné cette compagnie-là. Ben,
tout le monde
depuis longtemps.
Mal dans cette affaire. Le dit aussi, on a l'air de deux jambons.
Ah, ça me déprime, c'est vrai.
On
se limite à ça pour WWE cette semaine. De toute façon, la semaine prochaine, ça va être le dernier épisode du petit paquet, pas à vie, mais avant Clash of Champions. Donc, on aura l'occasion de passer l'entièreté de la carte en revue, faire nos prédictions et tout et tout. Sinon, étant donné que c'est moi qui suis dans la chaise de l'animateur ce soir, est-ce que t'as une capsule culturelle, mon Stéphane?
J'ai-tu une capsule culturelle, moi? Ben, c'est la rentrée de toutes. Si vous êtes littéraire, garochez-vous ces nouveaux livres, la rentrée télé. Les gros films vont commencer à sortir pour l'automne. Là, vite de même, à part Hit 2, j'en ai pas dans ma petite poche.
Avec Xavier Dolan qui a un petit rôle dedans. Je suis bien curieux de voir ça.
Un petit rôle des losers. D'ailleurs, son nouveau film à Xavier s'en vient aussi plus tard dans la saison. Sinon, qu'est-ce que je vais regarder? Je ne vais pas regarder grand-chose, mais Minute culturelle, lutte québécoise. Samedi, ça se passe à Québec. La NSPW présente son Rise Above au Centre Horizon. grosse carte. Michael Elgin va être là. On fait un... Je me trompe peut-être, vous me corrigerez, mais je pense que c'est leur dernier gala au Centre Horizon avant de déménager au Diamant de Robert Lepage. Il va y avoir la rivalité Manny contre Matt Angel, donc IWS contre NSPW, ça se règle là, gros combat hardcore. Estrada est sur la carte, les gars de TDT sont séparés mais sont sur la carte. Honnêtement, pouvoir y aller, je serais là, j'ai un d'autres plans samedi, donc je ne serai pas à Québec, mais si vous avez rien à faire, là, je pense qu'il reste quelques billets, le Centre Horizon contient quand même beaucoup de places, ça se passe du côté de Québec pour la lutte.
Cool, cool, cool. Sinon, ben, tu parlais de rentrée littéraire, là, vous avez une couple de fois au cours des derniers mois pris des nouvelles, donc là, je suis heureux d'annoncer que le livre que j'ai écrit sur la lutte qui s'intitule de façon un peu paresseuse, mais pas tant, parce qu'il y a des différentes couches. Ça s'intitule La lutte. Le livre est fini. Ça sort le 29 octobre. On aura l'occasion. Peut-être qu'on me recevra en entrevue moi-même dans le cadre du petit paquet pour en discuter plus en détail.
Une belle entrevue littéraire. Là. Je pourrais sortir mon René au miroir. Là.
Oui, ça serait merveilleux.
Écoute, on va te gâter.
Donc, alors voilà. Sinon, ben, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que la réunion de François se passe merveilleusement bien. On l'embrasse. Puis sinon, ben, on souhaite à la semaine prochaine.
Ouais.